Chapitre 34. Vendredi 12 août 1994. Encore 3 semaines et Nina s'installera à Paris, pense Pierre Beau en avalant une côte. C'est bien, elle aura une jolie vie. J'ai réussi mon coup. Au fond, je ne me suis pas trop mal débrouillée. C'est une gentille gamine. Et puis, elle sera pas toute seule, avec Étienne et Adrien. J'ai pas de soucis à me faire. Il s'arrête pour glisser une enveloppe sous la porte de Mademoiselle Brulier. Une dame charmante qui vit au 15 de la rue John Kennedy. Ses volets sont fermés, elle est en vacances. Comme tous les ans, avant de partir, elle a demandé au facteur de ne rien mettre dans sa boîte aux lettres. Les voies de la Comelle, Pierre Beau les connaît par cœur. Il les arpente sur son vélo depuis 36 ans. Une sacoche devant, 2 à l'arrière. Une dans le dos et la besace d'argent sur l'estomac, calée par une lanière de cuir entre l'épaule gauche et la hanche droite. De vélo et d'uniforme, il en a changé au moins 10 fois depuis ses débuts. Il ne sait plus, il n'a pas compté. Il a commencé en 1958, l'année de ses 20 ans. Ses rues sombres, ruelles ensoleillées, impasses, places ombragées, il les a connues par tous les temps. 36 ans de tournée à vélo, ça fait 144 saisons, 190 000 kilomètres, 7 morsures de chien, 3 chutes, dont une lui a valu une épaule cassée. 2 mois d'arrêt de travail en 1971. En moyenne, 500 boîtes aux lettres par jour. Du képi à la casquette, de De Gaulle à Chirac, en passant par Giscard et Mitterrand. Il s'est fait doubler par des 4 chevaux et des tractions, à présent par des Twingo et des Safranes. Il fait la même tournée depuis qu'il est entré à la poste. Les mauvais virages, les côtes, les anciens sens interdits, les nouveaux sens interdits, les feux de signalisation, les priorités, les dodanes, les stops que personne ne respecte, les rues mal fréquentées, les corneaux qu'il déteste, qu'il menace, les gentils, les trouillards, comme leur maître. Ceux qui déménagent, sont partis sans laisser d'adresse, les postes restantes, ceux qui sont morts, offrent un café, un verre de blanc qu'il fait semblant d'avaler cul sec, un jus d'orange, un petit gâteau, ceux qui ne lui ouvrent pas la porte quand il a un recommandé à faire signer, qui habite au 6e étage sans ascenseur, les boîtes aux lettres sans nom, qui débordent, dans lesquelles des enfants ont pissé, les paillassons, les rebords de fenêtres, les mots d'absence scotchés sur les portes, facteur, si je ne suis pas là, laissez colis aux voisins de droite. Les gens qui attendent de bonnes nouvelles, les jeunes filles qui l'embrassent, les pères de famille qui tremblent à l'idée de recevoir une facture d'eau trop salée, qu'ils l'insultent lui, parce qu'ils ont un rappel d'impôt dans le courrier. Les mamies adorables pour qui il change une ampoule, fait les commissions, remplit la déclaration de revenus, retire les médicaments à la pharmacie. Leur seul repère, c'est lui, leur facteur. La seule personne qu'elle voit dans la journée, quand il n'y a ni kiné, ni enterrement d'une copine. Il a toujours commencé son travail à 5 heures. Après le déchargement des camions, le courrier est allé sur les tables de tri. D'abord le tri général, puis le tri par quartier, et enfin le classement par rue, ses rues. Avant de partir, la perception des recommandés et des mandats postaux. Depuis qu'il est facteur, il part avec des millions de francs sur lui. Jusqu'à mars dernier, c'est Pierre Beau qui payait les allocations, le chômage, les retraites, l'aide à l'enfance aux habitants de sa tournée. Pendant 36 ans, il a parfois pédalé avec 10 millions de francs dans sa besace pour régler jusqu'à 50 mandats par jour. Depuis 5 mois, sa besace est vide. Ils ont inventé les virements qui se font directement sur le compte en banque des bénéficiaires. Lui n'y connaît pas grand-chose à l'informatique. Il paraît que c'est le progrès. Maintenant, les gens s'envoient des fax et pianotent sur des Minitel. Si ça continue, ils s'enverront des lettres avec leurs fichus ordinateurs et les facteurs ne serviront plus à rien. Ses collègues racontent même qu'il n'y aura plus de service militaire, plus de lettres de soldats aux jeunes filles et que les gens se promèneront avec leur téléphone dans la poche. On ne vendra plus de papier à lettres fleuris ni de stylo plume. Il n'y aura plus que des airs de chansons sans texte, la mort des mots écrits à la main. Il a toujours fini sa tournée vers 15h45. Il est toujours rentré chez lui de 16 à 17 heures pour déjeuner et piquer un roupillon. Même du temps de sa femme. Un sommeil noir, profond, sans rêve. la fatigue dans les muscles. Au début, il pédalait vite. Aujourd'hui, les années se font sentir dans les jambes et dans le souffle. Il roule de plus en plus lentement, ça le fait rager. Il est toujours repassé à la poste aux environs de 17h15. Avant mars 1994, il rendait l'argent qu'il n'avait pas distribué, faisant la réédition des comptes. Maintenant, il restitue juste les recommandés qui seront représentés le lendemain matin. L'autre courrier, il lui arrive de le garder chez lui pour simplifier le tri. Tout est notifié et doit rester au bureau de poste, mais les autres collègues font pareil. Ça se sait, mais ça ne se dit pas. Le chef ferme les yeux. C'est pour cela que Pierre est devenu fou quand il a découvert que Nina dérobait des lettres. Une erreur professionnelle impardonnable, lui qui n'a jamais fauté, à part avec Odile quand elle est tombée malade. Ce soir, Pierre Beau est en vacances. C'est la première fois de sa vie qu'il les prend après le 15 août. Et tout cela à cause du Juste Prix, le jeu télé de TF1 présenté par Philippe Risoli. Bertrand Delattre, son collègue et ami, a participé au jeu à la fin de l'année dernière. Ils étaient 15 habitants de la Comelle à prendre un minibus pour Paris. Quand Bertrand est revenu de son périple, il a fait des mystères. Il a dit à Pierre d'un drôle d'air « Regarde l'émission lundi en 8 et dimanche en 15, je te laisse la surprise. On peut échanger nos congés cette année ?» Le lundi, Pierre a interrompu sa tournée à l'heure du déjeuner pour regarder son collègue à la télévision. Pierre n'avait jamais regardé cette émission. Il ignorait même l'existence d'un tel programme. Son ami Bertrand a été tiré au sort parmi 4 candidats. Il a descendu un escalier sous les applaudissements du public. Pierre a reconnu certaines personnes de la Comelle dans l'assistance. Bertrand a pris place derrière un pupitre. Quand Philippe Risoli, le présentateur, lui a demandé d'où il venait, Bertrand a répondu « De la Comelle en Saône-et-Loire ». Et derrière lui, tout le monde a hurlé. Comme si c'était un événement d'être originaire de là. Comme si on avait gagné la Coupe du Monde de football. « Et que faites-vous en Saône-et-Loire, Bertrand ?» a demandé Philippe Risoli. « Je suis facteur. » Et là, idem. Tout le monde a applaudi en hurlant, comme si tous les facteurs avaient marché sur la lune. Ensuite, il y a eu le cadeau de sélection. Une jolie fille a caressé un lampadaire en céramique en parfait équilibre sur son trépied rond et son abat-jour coordonné. Les 4 candidats ont proposé un prix chacun à leur tour. C'est une Sandrine de Dordogne qui a gagné en disant que le prix de la lampe était de 2615 francs. Jamais Pierre n'avait vu de jeu plus stupide. Un Gilles Lopez d'Ardèche a fait son entrée. « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?»« Agriculteur. » Hurlement du public. Donc il n'y avait pas que les facteurs qui émerveillaient, les agriculteurs aussi. Il a fallu deviner le juste prix d'un ensemble d'accessoires pour femmes élégantes. C'est l'agriculteur qui a rejoint Philippe Risoli et gagné une bague de fiançailles à 32 diamants sertis en barrette. L'heureux élu a l'air bien ennuyé parce qu'il était déjà marié. Alors Philippe Risoli a trouvé la solution. Il a suggéré de l'offrir à une créature de rêve. En entendant cela, Pierre s'est mis à rire tout seul devant la télévision, sous l'œil perplexe de Paola. Enfin, c'est Bertrand qui a deviné le juste prix d'un canapé aux lignes pures recouvert d'un tissu rouge carmin pour passer une agréable soirée. En rejoignant l'animateur sur le plateau, il a failli tomber et Pierre a eu les larmes aux yeux. Un œil pleurant d'émotion, l'autre de consternation. Avant que Bertrand joue, Philippe Risoli a fait une annonce. « Si vous rêvez d'assister au juste prix, remplissez le bulletin qui figure dans Télé Z chaque lundi. » Puis on est revenu aux choses sérieuses. Au salon de jardin extérieur en résine teintée dans la masse. Bertrand a répondu juste à tout. Pierre a dû baisser le volume de la télé, tant la sonnerie de la victoire était assourdissante. Hystérie générale. Le public tapait des mains. On aurait dit qu'on avait drogué les gens ou qu'on les avait saoulés, les deux peut-être. Bertrand a eu l'air gêné de gagner tout cet argent. Il est resté stoïque, ne s'est laissé déborder par aucune émotion, ce qui a eu l'air de décevoir le public. « D'habitude, vous avez de la chance ?» Bertrand a répondu « Ben non, pas trop. » « Comment vous êtes-vous retrouvé à participer à l'émission ?»« C'est ma femme qui a rempli et envoyé le bulletin. » Le présentateur a regardé la caméra et dit « Le Minitel 3615, code TF1. » À la fin de l'émission, 3 candidats ont fait tourner une énorme roue et c'est Bertrand qui a gagné sa participation à la finale. Les perdants sont repartis avec un pin's parlant à l'effigie de Philippe Risoli et un panier garni. Rendez-vous demain, 12h20. Générique de fin. Pierre Beau est remonté sur son vélo pour finir sa tournée. Il a repensé à tout ça entre deux boîtes aux lettres. On était lundi. Il fallait attendre le dimanche suivant pour savoir si Bertrand gagnerait la vitrine. C'est-à-dire le lot final. Énorme, gigantesque, extraordinaire, lui avaient dit les petites mamies à qui il distribuait le courrier. Jusqu'au dimanche suivant, Pierre n'a eu aucune nouvelle de Bertrand, comme s'il se cachait. L'enregistrement de l'émission avait eu lieu plusieurs mois avant la diffusion, et sa participation avait été gardée comme un secret d'État. Et le grand jour est arrivé. Pierre a regardé la finale avec Nina, Étienne et Adrien. Les enfants n'arrêtaient pas de rire devant ce jeu consternant. Ils criaient des montants à tue-tête, disaient n'importe quoi. Et Nina a fini par dire « Il a l'air trop coincé, Bertrand !» Pierre s'est demandé si la vie avait un juste prix, et si la vie des uns avait le même prix que la vie des autres, celle de gens qu'on ne connaissait pas, celle de sa femme, partie si jeune, et celle de sa fille, Marion. Où était-elle ? Pour lui, la vie la plus précieuse, c'était celle de Nina. Elle valait toutes les autres réunies. Bertrand a deviné le juste prix d'une colonne en céramique assortie d'une lampe à 5290 francs. D'un four micro-ondes de 700 watts avec grill, turbo-grill et décongélation automatique pour 7 familles d'aliments à 3490 francs. Mais comment son ami savait-il tout cela ? Se demandait Pierre. Il le connaissait depuis 30 ans et ignorait ça de lui, cette connaissance du prix des choses. Et Bertrand s'est retrouvé en finale avec une autre candidate, une Martine retraitée de Cagnes-sur-Mer. Quand des filles en tenue légère ont présenté la vitrine, la mâchoire de Bertrand s'est décrochée. Une chambre à coucher, une salle de bain avec meubles et baignoires à remous, une lampe halogène, une table en rotin avec plateau en verre biseauté, des fauteuils, un vase transparent qui évoque l'océan le plus pur, une voiture, une moto, un réfrigérateur, un séjour en Tunisie, un train électrique. Il fallait deviner le montant approximatif de tous ces lots additionnés. Celui dont le montant proposé serait le plus proche du juste prix aurait gagné. Les deux finalistes ont écrit chacun une somme sur un morceau de papier. Philippe Risoli a lu leur réponse à voix haute. Pour Bertrand, la vitrine proposée cette semaine s'élève à 134 000 francs tout rond. Pour Martine, à 220 000 francs. Le juste prix de cette vitrine est de 163 459 francs. C'est donc Bertrand qui a gagné. Nina a hurlé « Putain, papy, mais ton pote a gagné !» Ils étaient un petit peu en retard, a dit l'animateur. Une voix off a annoncé la vitrine de la semaine suivante avec un nouveau public et de nouveaux candidats, puis générique de fin. Pierre n'en revenait pas. Son ami avait remporté tout ça et ne lui avait rien dit. Il lui avait juste parlé de permuter leurs vacances. Mais où avait-il mis cette salle de bain, cette voiture et cette moto ? Son appartement était minuscule et il n'avait même pas de garage. Sa vieille 4L dormait dehors. « Je les ai vendues », lui a répondu Bertrand quand il lui a posé la question. Il avait juste gardé les vacances en Tunisie et donné l'argent du gain aux deux enfants qui lui restaient. Bertrand en avait eu trois. Le cadet avait été emporté à un an. Voilà comment Pierre Beau a changé ses dates de vacances pour la première fois de sa vie, à cause du juste prix. S'il n'était pas aussi fatigué, ça le ferait sourire. Et puis, il faut voir le bon côté des choses. Dans 3 semaines, il pourra accompagner Nina à Paris et rester quelques jours avec elle. Le 6 mai 1981, une femme lui avait ouvert la porte pour récupérer un colis. Elle était toute nue. Il avait ressenti un tel choc qu'il avait failli faire une crise cardiaque. C'est exactement ce qu'il éprouve quand un camion des transports d'Amam lui refuse la priorité et le percute de plein fouet.